franceinter.fr.
Bonjour. À la fin de l'année, vous le savez sans doute, Paris va accueillir la conférence internationale sur le climat. Sous l'égide des Nations Unies, les représentants de 190 pays de la planète tenteront d'atteindre un objectif, réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre afin de limiter le réchauffement. Car, à quelques rares sceptiques près, l'ensemble de la communauté scientifique considère que l'activité humaine est bien la cause principale de ce réchauffement. Pour mesurer les conséquences de ces bouleversements climatiques, il est un indicateur essentiel, c'est la biodiversité. Et l'on sait que le nombre des espèces vivantes ne cesse de régresser. C'est vers l'une des plus importantes réserves de biodiversité du monde que nous nous tournons ce matin. C'est un territoire français, c'est la Guyane. Ce petit bout de France, juché sur le continent sud-américain, entre le Suriname et le Brésil, est aussi étendu que l'Autriche. Il compte 240 000 habitants. Mais la richesse de la Guyane, c'est sa forêt. Une forêt amazonienne de 8 millions d'hectares que les autorités françaises protègent le plus possible de l'activité humaine. Yann Gallic et Benjamin Chauvin viennent d'y passer plusieurs jours pour Interception. Titre de leur reportage, Guyane, diamant sous canopée.
Interception, le magazine de la rédaction.
Là, on est en train de préparer des pièges à mouches, donc des pièges pour drosophiles qui consistent donc en fait sur des bouteilles plastiques qu'on peut récupérer un peu n'importe où, dans lequel on va mettre un appât qui est constitué principalement de bananes un peu mûres, avec un peu de levure puisqu'elles aiment bien ça aussi. Et du coup, l'odeur va attirer les drosophiles. Elles vont rentrer par les petits trous qu'on a fait sur le pourtour de la bouteille. Elles vont en manger de la banane, elles vont aussi pondre leurs œufs dedans et après nous on récupère le tout. Les œufs, pas trop, mais au moins les femelles qui pondent et qu'on peut ramener en fait en laboratoire après pour établir des lignées et les étudier.
Vous êtes donc en train de fabriquer des pièges à mouches. Il en faut combien à peu près pour récupérer ce qui vous intéresse ?
On essaye là d'en poser au moins une dizaine à différents endroits sur un site donné. Puisque on ne sait pas trop quel endroit particulier va être riche en drosophiles ou pas. Bon, sachant qu'elles peuvent se balader, et qu'elles ont l'odorat assez fin et elles peuvent trouver cette source de nourriture fabuleuse d'assez loin. Mais il y a des fois où ça marche mieux. Par exemple, on va en mettre une près du compost parce qu'on sait que là, il y a tendance à avoir beaucoup de drosophiles, donc ce sera facile. Et puis autrement, quelques endroits en pleine forêt.
Sur des arbres ?
Alors, on les suspend, les bouteilles, à des branches d'arbres avec un fil. Ça permet d'éviter, enfin, minimiser le fait qu'il y a aussi des fourmis qui peuvent venir, et ça, c'est plus embêtant. Donc, on les suspend aux arbres. Et puis, si on peut trouver un site où il y a des fruits déjà un peu pourris par terre, c'est aussi bien aussi.
Nous sommes dans la réserve naturelle des Nourags, à environ une centaine de kilomètres à vol d'oiseau de Cayenne et du littoral. Alors les Nourags, c'est la plus grande réserve naturelle de Guyane, avec près de 105 000 hectares de forêt tropicale. Et c'est ici, au cœur de cette forêt, que le CNRS a installé une station scientifique avec des constructions, des maisonnettes en bois, il y en a 7-8, des maisonnettes en bois avec des toits en tôle que l'on appelle ici des carbets. Et cette station accueille chaque année des chercheurs venus du monde entier pour étudier la biodiversité.
Je suis chercheur. En Autriche, je dirige une équipe qui étudie le mécanisme de l'évolution des espèces.
driving speciation.
Depuis plusieurs années, je travaille sur les drosophiles du continent américain. Et l'intérêt, c'est justement qu'elles sont en cours de mutation.
American native Drosophila species, because this is a system which is currently under speciation.
So in most of the systems, si on observe les végétaux ou les animaux, on s'aperçoit qu'ils évoluent et que cette évolution peut donner naissance à de nouvelles espèces. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir observer ce phénomène sous nos yeux, ce qui est très rare. Ça nous permet de comprendre comment un organisme vivant se divise en plusieurs branches pour aboutir à une nouvelle espèce.
Vous travaillez en association avec le CNRS ?
C'est un programme pilote. Avec Aurélie, nous avons reçu des financements qui nous permettent de prélever des mouches que nos prédécesseurs avaient observées il y a 50 ou 60 ans. Ainsi, on peut comparer les deux échantillons et mieux comprendre comment ces drosophiles ont évolué dans leur milieu naturel sur cette période de 60 années. Est-ce que ce sont les mêmes espèces ou est-ce qu'il y a eu une mutation ?
C'est un plaisir à chaque fois que vous venez ici en tant que chercheur.
Yes, it's a perfect place for a researcher here.
Oui, c'est l'endroit idéal pour un chercheur.
It's the professional way how to do science here. It's very well organized.
Sur le plan professionnel ici, l'organisation est parfaite.
One of the other benefits compared to American.
Et l'un des gros avantages par rapport au laboratoire américain, c'est la cuisine. Sur les sites de recherche américains, on ne mange que des haricots et des hamburgers. Ici, bien qu'on soit dans l'un des endroits les plus isolés de la planète, on peut profiter de cette merveilleuse cuisine française. Et la biodiversité est extraordinaire.
I think if you stay here long enough, you find every day new species, right? It's completely understudied.
Si vous restez assez longtemps ici, je pense que vous pourrez découvrir chaque jour de nouvelles espèces.
Places, right?
Ce site des nourags est tout à fait exceptionnel pour les scientifiques.
So we haven't found here any invasive species yet.
Il est particulièrement bien protégé. Ici, on observe vraiment la biodiversité à l'état originel.
Non, il y a les couchés.
Non, ben, il va reculer tout à l'heure.
Et en plus, il vous voit. Mais c'est une blague.
Aurélie Uavan, vous êtes chercheuse à Paris, en région parisienne, c'est ça ?
Oui, donc je suis au CNRS à Gif-sur-Yvette, dans le laboratoire évolution, génome, comportement et écologie. Et donc on travaille principalement en écologie, en diversité, c'est des aspects qui nous intéressent pas mal au sein du labo.
Les nourags, c'est un véritable paradis pour les chercheurs comme vous ?
Alors bah oui, manifestement, pour moi oui, et je pense pour beaucoup d'autres chercheurs qui étudient la biodiversité, puisqu'on est en plein cœur de forêt, donc c'est vraiment pas contaminé par l'humain, même si on a quelques quand même l'électricité, etc. Et donc c'est une opportunité unique de pouvoir faire des prélèvements et d'avoir quand même un peu de confort, puisqu'il y a un petit labo, il y a l'électricité.
Là, c'est vraiment de la recherche de terrain.
Alors là, c'est vraiment de la recherche de terrain et donc c'est complètement différent. Moi, personnellement, quand je suis au labo, je suis devant mon ordinateur toute la journée. Alors ça fait un vrai dépaysement et puis bon, je pense que c'est la nature, complètement la forêt. Je pense que c'est difficile de ne pas être sensible à ce cadre, si ce n'est de vie, mais d'environnement, au moins pour quelques jours.
Il y a encore beaucoup de travail pour les chercheurs pour recenser et identifier toutes les espèces que l'on peut trouver ici.
Alors clairement, je pense que ce sera quelque chose, on n'y arrivera jamais, parce qu'il y a encore un tas d'espèces qu'on n'a pas découvert, il y a beaucoup d'espèces qui meurent avant même qu'on les ait découvertes, et donc il y a pour des centaines d'années encore, je pense, enfin, et j'imagine que ce ne sera jamais atteint, sachant qu'il y a des espèces qui vivent dans des endroits assez restreints. Tous les jours, on découvre de nouvelles espèces dans des endroits qui sont riches en biodiversité, donc sous l'Amazonie ou d'autres sites, sous la mer, etc.
C'est la deuxième fois que vous venez là.
Oui.
Est-ce que vous savez si le changement climatique a un impact sur cette biodiversité, sur les espèces que vous pouvez être amené à étudier ou c'est encore trop tôt pour le dire?
Alors, c'est bien connu dans la communauté scientifique que ça a des impacts énormes. Changement global lié à l'homme et même tous les phénomènes d'anthropisation, c'est-à-dire le fait de défricher pour adapter à l'homme, ça on sait que pour certaines espèces, c'est extrêmement grave. Je pense notamment aux batraciens, aux amphibiens qui sont vraiment en danger. Par rapport à ça. Donc ça peut être déforestation, suppression de l'humidité, assèchement en fait, et tout ça pour des besoins humains qui fragilisent encore plus des populations qui peuvent être par ailleurs, pour d'autres raisons, déjà fragilisées.
Patrick Châtelet, vous êtes le responsable de cette station scientifique ici au Nourag. Ça fait combien de temps que le CNRS est installé ici, dans cette réserve des Nourag?
L'implantation du camp Inselberg date de fin 86, début 87. Donc oui, ça fait déjà un peu 30 ans.
C'est un vrai petit village en fait. Il y a un carbet cuisine, salle à manger, un carbet pour se doucher. Il y a même un laboratoire climatisé ici.
Oui, une salle sèche qui fonctionne effectivement avec une climatisation pour garder les instruments qui créent l'humidité à l'abri durant la nuit. Parce qu'ici, effectivement, l'humidité est un gros problème qui nous fait perdre beaucoup de matériel électronique.
Qui est-ce qui a construit là ces carbets qui sont assez impressionnants d'ailleurs? Vous pouvez nous le décrire un peu celui-là,
Le carbet cuisine, c'est effectivement le carbet le plus grand. Bon, c'est un lieu de vie. Alors un carbet, c'est essentiellement des poteaux qui sortent de sol, un toit. Alors le toit ici, on l'a fait avec des bâches de camion. Pour tous les carbets habitation, les poteaux servent effectivement à soutenir les hamacs dans lesquels les chercheurs vont dormir.
Et sous ce carbet cuisine, il y a toutes les provisions de nourriture entassées sur des étagères. Il y a des boîtes de conserve, on a aussi des gros frigos et des gros congélateurs.
C'est ce qu'on appelle l'épicerie ou la petite boutique. On a pas mal de réserves. C'est nécessaire parce que parfois les missions sont assez longues et les hélicoptères, bon, ils peuvent en arriver aussi bien un toutes les semaines qu'un par mois. Donc il est nécessaire de faire des réserves.
C'est vraiment l'un des hauts lieux de la biodiversité en Guyane, les Nourag.
Oui, les Nourag ont ce atypique que c'est vraiment implanté dans une forêt primaire, c'est-à-dire qu'on considère qu'il n'y a pas eu d'impact humain pendant plusieurs centaines d'années. Donc pour toutes les personnes qui sont intéressées pour étudier ce genre de milieu, pour l'étudier de manière confortable, les Nourag, c'est effectivement un point très important. C'est aussi des milieux très particuliers. Il y a des forêts lianes, il y a des forêts de bambous, il y a des forêts basses. Donc ici, on groupe beaucoup de milieux un peu différents qui permettent une étude assez exhaustive de la biodiversité.
Il faut savoir qu'ici, sur un hectare de forêt, on trouve plus d'espèces que dans toutes les forêts d'Europe.
Au niveau insectes, effectivement, c'est une richesse incroyable. Au niveau oiseaux aussi. Au niveau espèces d'arbres, effectivement, sur un hectare, on peut trouver 600 espèces. Selon l'avis des scientifiques, il reste encore beaucoup d'espèces à découvrir, y compris ici au Nourag, mais il y a certaines zones de Guyane qui ne sont encore pas très explorées. Il peut très bien y avoir des espèces qui existent ici, qui n'existent pas ailleurs, ou vice-versa.
Vous avez mis en place un dispositif qui s'appelle le dispositif COPAS. Trois grands pylônes de 45 mètres de haut, reliés entre eux par des câbles métalliques avec une nacelle. C'est pour étudier la canopée, c'est-à-dire la cime des arbres.
Voilà, c'est ça. La canopée, c'est un milieu qui est très riche, mais qui est mal connu, évidemment pour des questions d'accès. Donc, en fait, pour avoir un accès permanent à une parcelle entière, on a créé le COPAS. Donc, effectivement, c'est trois tours distants de 180 mètres, hauts de 46 mètres, qui vont être reliés ensemble par des câbles. Et ces câbles vont être fixés à une nacelle dans laquelle prend place un chercheur qui va pouvoir se déplacer sur toute la zone. Donc, il peut étudier toute la canopée sur toute sa surface et sur toute sa profondeur. Il peut faire tous les prélèvements qu'il veut. Et du coup, en fait, ça donne accès à une richesse inouïe.
Quel est l'intérêt d'étudier la canopée?
L'intérêt, c'est d'abord que c'est une zone très peu connue, où pourtant il y a énormément d'animaux d'espèces qui sont encore à découvrir et dont les interactions avec le reste de l'environnement est encore à déterminer.
Il y a Patrick Châtelet, nous venons de quitter le camp pour nous enfoncer dans la forêt tropicale. Qu'est-ce qu'on va faire là ?
Là, on va rejoindre une équipe du CIRAD qui est en train d'installer des parcelles à l'intérieur de la forêt. Et alors, ces parcelles vont avoir pour but d'installer à la fois des zones témoins et des zones d'études pour voir l'impact qu'aura le phosphore sur la croissance.
Sur la croissance des arbres ?
Oui, des arbres et des plantes de sous-bois.
Oui, bon. C'est comment votre prénom ?
Petrus.
Petrus. Ça fait combien de temps que vous travaillez au CIRAD ?
Une vingtaine d'années.
Donc c'est le centre pour la recherche agronomique pour le développement.
Exactement.
Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? Je vois que vous avez un mètre dans les mains.
Là, je suis en train de mesurer le diamètre de l'arbre. Circonférence plutôt. On marque tous les arbres à hauteur de 1,30 m.
Et ça va servir pour les scientifiques après, ce que vous êtes en train de faire ?
Oui, oui, oui.
Et les quotas qui mangent.
Il y a les attelles qui mangent juste à côté, sur la voie. Un gros singe, tout du noir, le visage rouge.
Là-haut ?
Oui, sur la voie.
Mon nom et nom de famille, c'est Quez Martinez. Je suis chef d'équipe au CIRAD.
Et vous êtes originaire de quelle région en Guyane ?
Du Suriname. Je suis naturalisé français, donc j'ai la double nationalité. Je suis né tout près de la forêt, c'est-à-dire dans les villages qui se trouvent au bord du fleuve le Suriname. Donc pour nous, la forêt, être né tout près de la forêt, tu retrouves un travail qui t'amène en forêt tous les jours, pour moi, c'est un plaisir.
La forêt, pour vous, c'est une nécessité, c'est...
Je peux dire que c'est une richesse pour moi. Nos parents, ils font la bâtie.
Donc on la récolte culture en forêt.
Voilà, planter, récolter, c'est pour nourrir ses enfants. C'est la chasse, la pêche. C'est avec ça que moi, j'ai grandi jusqu'à l'âge de même 20 ans. Maintenant, on est obligé d'aller au Chinois pour acheter parce qu'il n'y en a plus beaucoup de gens qui font ça. Mais avant, tout ce qu'on mangeait, c'était de la bâtie, vient de la bâtie.
Est-ce que les jeunes encore de votre communauté s'intéressent à la forêt ?
On peut dire oui, parce qu'il y a certains qui s'intéressent, mais pas tout le monde. Il y a ceux qui pensent à partir en métropole et restent en métropole. Maintenant, tout le monde part pour trouver quelque chose, un diplôme. On peut avoir un diplôme pour retourner en forêt en tant qu'ingénieur, mais bon, il y a beaucoup qui souhaitent rester à métropole une fois parti.
Toute la zone ici a été inventoriée sur des arbres qui font un diamètre de plus d'un centimètre de circonférence. Ils ont été marqués, ils sont identifiés avec une petite plaquette et ils ont été identifiés dans la mesure du possible, au minimum à la famille, parfois à l'espèce.
Dans cette forêt, il y a une variété d'arbres assez incroyable et des arbres souvent très impressionnants qui peuvent faire jusqu'à plus de 40 mètres de haut.
Oui, alors les gros émergents, bon, c'est assez rare, mais on considère qu'ils peuvent atteindre jusqu'à 50-60 mètres. Après, la plupart ici peuvent atteindre des hauteurs de à peu près 30-40 mètres.
Ce sont des arbres qui peuvent être très hauts, mais pas forcément avec des troncs très larges. Hein. Celui-là, par exemple, il a un tronc assez fin.
Quand ça tombe, ça peut entraîner d'autres arbres avec, c'est ce qu'on appelle un chablis multiple. C'est un phénomène qui arrive très très souvent ici, le chablis. Ça, on considère qu'à peu près 1% de la forêt guyanaise est touchée, influencée par, c'est pas forcément 1% qui va tomber, mais est influencée par un chablis tous les ans. Et c'est aussi un des principaux risques quand on vit en forêt, c'est la chute d'arbres et de branches.
L'intérêt de cette forêt primaire, c'est qu'elle est... vierge de toute agression humaine quasiment, ce qui permet d'étudier ici la biodiversité comme nulle part ailleurs.
En fait, le nom de Nourag, dont issu le nom de la réserve naturelle où nous travaillons, vient d'une ancienne tribu indienne, mais qui aurait disparu, aura gagné le littoral au cours du XVIIe, XVIIIe siècle. Donc on considère que depuis au minimum 200 ans, il n'y a pas eu d'impact humain sur la zone. Donc c'est une zone qui est totalement à l'abri de l'interaction avec l'homme. Donc tous les arbres qui sont ici n'ont pas été influencés par des plantations ou par des apports nutritifs particuliers.
C'est quoi le petit bruit qu'on entend derrière nous ?
des branches qui tombent. Mmh. C'est, alors il y a un singe, ce qu'on appelle ici le Quata, mais c'est un des, effectivement, un des plus grands singes de Guyane, qui a des très très longs membres, donc il est noir à face orange, et avec ses longs, très longs membres et sa queue, en fait il est souvent appelé singe araignée.
Vous savez combien il y a de variétés de singes dans cette forêt guyanaise?
Alors je parle plus pour des nouraques que de la Guyane en général, mais alors que je fasse le compte, on a le quata dont on vient de parler, le singe hurleur, qu'on entend très très souvent.
Notamment la nuit?
Notamment la nuit, aux petites heures du matin. Il y a deux espèces de cébus. On a le saki et on a, mais bon, plus proche de la zone rivière, on a le saimeri et puis on a aussi le tamarin à main dorée. Donc ça fait quand même un certain nombre d'espèces. En fait, on est souvent à l'affût du bruit qu'on peut avoir au sommet des arbres. Parce que quand on est dans une zone réserve, c'est une zone non chassée, du coup les singes en particulier sont beaucoup moins craintifs par rapport à la présence de l'homme. Donc on les voit très souvent.
Certains animaux protégés sont aujourd'hui menacés de disparition, notamment à cause du braconnage de plus en plus répandu. Sur le territoire guyanais, la réglementation en matière de chasse est beaucoup moins contraignante qu'en métropole. Ici, pas besoin de permis. En dehors des réserves naturelles, on peut chasser librement tout au long de l'année. Jérémy Ripaud travaille à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. C'est le chef de la police de l'environnement qui emploie une douzaine de personnes en Guyane.
Nous sommes sur le Rapu, nous partons pour une journée de surveillance fleuve. Donc nous allons remonter le fleuve sur la journée, contrôler les éventuels chasseurs, pêcheurs, utilisateurs de la nature. Donc il y a effectivement l'application de toutes les réglementations, donc lutte contre le braconnage, notamment sur les espèces protégées. Et puis des missions d'information. Les réglementations sont pas toujours bien comprises ou connues des différents usagers, des différentes populations. Donc on est aussi chargé de le faire connaître et de l'expliquer aux gens.
Il y a beaucoup de braconnage ici?
Il y a beaucoup de gens qui chassent les animaux culturellement, historiquement, sans chercher à savoir, à reconnaître leur statut. Alors est-ce que c'est du braconnage? Je ne sais pas ce qu'on peut appeler braconnage, mais toujours est-il qu'il y a quand même des gens qui prélèvent des espèces qui ne sont pas autorisées au prélèvement.
Pas de gilet, non ?
Non, ça va. On va voir. La rivière est très très haute là. Habituellement, on est vraiment en saison des pluies et habituellement il y a énormément d'embâcles et ça passe pas très bien. Donc aujourd'hui ça devrait aller plutôt bien.
Jérémy Ripaud, là, on arrive dans une zone un peu délicate puisque le fleuve est barré par un gros tronc d'arbre. Et puis il y a aussi des déchets, quoi.
Oui, donc on voit un congélateur qui flotte là, qui est sur le bord du fleuve. Donc c'est en fait les gens en amènent souvent hein, pour qu'ils laissent là où ils mettent leur carbé, là où ils s'installent. Pour laisser la nourriture, pour laisser le gibier au frais. Donc ils montent des glaçons, des pains de glace et ça sert à garder les aliments et le gibier en état.
Sur les eaux du fleuve?
Là, ce qui a dû se passer, c'est qu'avec la saison des pluies et les eaux qui sont un peu hautes, il devait être reposé sur le bord d'un emplacement carbé et il a dû être pris par les eaux et être embarqué par le fleuve.
Ça, c'est assez fréquent de trouver des objets comme ça qui flottent ici sur le fleuve?
Sauf que c'est pas rare, ça arrive régulièrement effectivement. Donc là, nous avons deux ossatures de carbet de chasseurs. Donc on va jeter un coup d'œil, voir s'il y a des traces qui nous permettraient d'avoir des informations sur ce qui est chassé ici.
Boîte de conserve.
Oui, malheureusement, il y a des chasseurs qui sont raisonnables, mais il y en a qui le sont moins, donc ils laissent des déchets, des bouteilles en pleine forêt. Ça aussi, c'est un problème, c'est une plaie.
Vous, Jocelyn, vous faites partie de l'équipe là, de surveillance, vous travaillez pour l'ONEMA, c'est ça l'Office national ?
L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. En fait, bon, je dirais que bon, il y a un problème parce que les gens ne sont pas assez sensibilisés à ce niveau-là. À certains endroits, on croirait que bon, c'est la forêt, la belle forêt, on voit effectivement des déchets, quoi. C'est malheureux.
Jérémy Ripaud, on peut chasser et pêcher un peu ce qu'on veut ici.
C'est ça, il n'y a pas vraiment de réglementation spécifiquement chasse. On a des espèces qui sont protégées, on a arrêté sur la protection des mammifères, des oiseaux, des reptiles, amphibiens. Et on a également une protection sur le commerce de certains de ces animaux. Après, on a juste un arrêté préfectoral qui va limiter le nombre d'espèces que l'on peut chasser, les macaques, les caïmans, certains gros oiseaux, comme le marail. Et donc, on n'a pas de réglementation, on chasse en tant que tel. Donc, n'importe qui peut venir armé d'un fusil, chasser sur les fleuves, de jour, de nuit.
Voilà. Il y a juste des quotas qui sont fixés pour certaines espèces. Certaines espèces sont protégées, mais finalement, chacun peut faire un peu ce qu'il veut.
Voilà, c'est ça. On a sur des espèces de cochons, de singes, d'oiseaux, on a un nombre d'animaux à ne pas dépasser par sortie. Et par chasseur, la Guyane est un milieu assez ouvert où on peut encore faire. On manque quand même cruellement de réglementation. D'autant plus que la population étant croissante, la pression sur les espèces animales et sur les poissons, sur la frange littorale donc qui est très habitée, donc cette pression est très très forte et a une incidence non négligeable sur les espèces qu'on voit de moins en moins pour ce qui concerne les plus chassés. Oui. Il y a quelques années. On voyait régulièrement des iguanes, on voyait régulièrement sur une piste qu'on a fait il y a deux jours, on voyait régulièrement du gibier traverser la route, que ce soit des oiseaux, les marailles, que ce soit les tapirs, les singes, on en voyait la nuit, on en voyait partout traverser les routes, les pistes. Aujourd'hui, on a fait un service de nuit vendredi soir, sur 5 ou 6 heures à faire des dizaines de kilomètres de pistes, on n'a pas vu un animal. On a des gens, des collectionneurs, ou scientifiques ou collectionneurs qui viennent du monde entier pour capturer des insectes qui pour certains atteignent des sommes considérables sur le marché. On a des insectes qui valent vraiment très très cher, plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros le spécimen, hein, et les gens viennent de partout pour en récolter, pour les revendre entre collectionneurs chez eux. C'est valable pour les araignées, c'est valable pour pas mal d'insectes.
Le parc amazonien de Guyane a été créé en 2007 et il s'étend sur plus de 3 millions d'hectares. C'est le plus grand parc d'Europe. Près de 15 000 habitants vivent dans cet espace protégé, essentiellement des Amérindiens et des Bushinengués, les descendants des esclaves noirs qui ont fui les plantations du Suriname au XVIIIe siècle. Aujourd'hui encore, ces communautés tirent leurs ressources de la forêt. Les responsables du parc essayent d'encourager le développement local tout en préservant l'environnement. Les communes implantées sur ce territoire ont signé une charte qui promet d'améliorer les conditions de vie des habitants, parfois privés d'eau potable et d'électricité, mais aussi de lutter contre l'orpaillage illégal et de valoriser le patrimoine culturel. Chaque année, le parc amazonien organise un marché artisanal à Maripasoula, une petite ville au bord du fleuve Maroni qui marque la frontière avec le Suriname. Cet événement festif attire des centaines de visiteurs.
Serge Anelli, vous êtes le maire de Maripasoula depuis 2014.
Oui.
Maripasoula est la plus grande commune du parc amazonien. Vous avez adhéré à ce qu'on appelle la charte du parc. Qu'est-ce que ça change pour votre commune de faire partie de ce parc amazonien ?
Depuis un an, nous travaillons de commun accord avec le parc pour voir quels sont les projets que nous allons mettre en avant, des projets concrets et réels. Même si c'est au niveau de l'ingénierie, c'est déjà quelque chose d'important parce que n'oubliez pas que nous sommes dans une commune enclavée et il est difficile de trouver des techniciens à Maripasoula. Alors si nous pouvons profiter aujourd'hui, ne serait-ce que de l'ingénierie du parc, c'est déjà quelque chose de gagné.
Vous estimez qu'il y a un retard aujourd'hui à rattraper ici à Maripasoula parce que justement vous êtes une commune isolée, difficile d'accès,
oui.
Comme toutes les communes du parc d'ailleurs.
Oui, je n'estime pas, c'est un fait. Nous accusons un retard colossal. Donc si nous pouvons travailler en partenariat avec d'autres acteurs qui peuvent nous apporter des billes, on est plus que satisfait.
Vous avez des exemples concrets de ce retard? Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans les mois, les années qui viennent? Qu'est-ce qui est urgent ici?
Il suffit de voir autour de vous. Les logements sociaux, il n'y en a pas. Les infrastructures, elles sont manquantes. Les voiries sont dans un état assez calamiteux. Tout est à faire, tout est à faire.
Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une tension entre ce désir que vous exprimez en tant qu'élu local de développement économique aussi pour votre commune, et les impératifs liés à la protection de la nature, puisqu'on est dans un parc national?
On n'est pas figé. On a adhéré à la charte, mais on n'est pas obligé de rester ad vitam aeternam dans le parc, puisque au bout de 10 ans, on peut en ressortir. Donc on a déjà une marge de manœuvre et après on verra ce qu'on peut faire. Si on n'est pas satisfait au bout de 10 ans, eh bien, ceux qui viendront après moi, ils verront, tout simplement.
Et la forêt, ça peut être une source de richesse, de ressources pour la commune ?
Source de richesse, oui. Et en même temps, non. Pour moi, c'est effectivement un levier qui pourra nous permettre d'assurer ce développement aussi bien pour nous que pour les artisans qui sont là.
Merci Serge Anelli. Nous sommes avec Mimi Sikou et Tapin Kili. Vous êtes père et fils, tous les deux amérindiens, et vous venez du village d'Antekumpata. Vous avez mis combien de temps là pour rejoindre Maripasoula et pour participer au marché artisanal?
Nous on a mis une heure et demie.
Une heure et demie de pirogue.
De pirogue.
Et vous, Mimi Sikou, donc vous êtes le papa de Tapin, et vous êtes surtout réputé pour être, dit-on ici, l'un des meilleurs vanniers de la région. Vous faites de la vannerie. Mimi Sikou, vous avez quel âge?
Mimi Sikou, 57 ans.
Est-ce qu'aujourd'hui, en 2015, à Antekumpata, on vit encore en lien direct avec la forêt? Est-ce qu'on va chercher ces ressources quotidiennes dans la forêt?
De toute façon, on vit toujours dans la nature. Mais tout ce que la nature nous donne, donc c'est là qu'on produit des choses, quoi. Les artisans, les artisanats, etc., les arcs, les bois, etc. Jusqu'à maintenant, on prend toujours dans la forêt, quoi, dans nos ressources. Oui, malgré l'évolution, nous, on pêche, on chasse, on cueille des fruits dans la forêt. Quoi. Donc, tout ce que, jusqu'à maintenant, ça n'a pas changé du tout. Quoi.
Et Mimi Sikou, quand vous faites vos vanneries, vous allez dans la forêt pour récupérer le bois, les plantes, qui permettent ensuite de faire votre travail artisanal. C'est de la forêt que vous vivez, finalement.
Je vais souvent en forêt chercher des arcs, des arômes, parce qu'il faut aller plus loin, surtout au niveau des arcs et des bois est rare. C'est un bois spécial. Donc quand je suis artisan, je suis obligé d'aller en forêt, même si c'est loin, mais j'y vais parce que c'est la seule ressource qu'on a.
Vous, Amérindien, vous êtes installé ici dans cette forêt depuis des siècles. Est-ce que
C'est difficile aujourd'hui d'entendre des gens, et notamment l'État français, qui fixent vos règles de vie, finalement, à travers ce parc amazonien.
Ouais, c'est vrai que ça fait quand même... ça nous trouble, mais comme on a toujours répété, que les autorités ne viennent pas nous consulter avant de faire la réglementation, etc. Parce que l'État croit que nous, on vit comme en métropole, mais il ne voit pas la réalité qui se passe sur le territoire. Parce qu'il croit que nous, on a des agriculteurs, on a des gens qui font la pisciculture, l'élevage, etc. Mais ce n'est pas du tout ça, quoi.
Mimi Sikou, est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir de votre forêt amazonienne ?
Il m'a répondu bien. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps.
Je suis en train de voir, comme il dit, je ne suis pas optimiste pour voir ce qui va se passer dans quelques années. Déjà qu'il y a des guerres féroces qui détruisent notre territoire. D'ici quelques années, si on ne protège pas, il y aura des autres personnes qui vont venir piller nos ressources. Déjà que c'est vrai que notre territoire, comme ils ont dit, est riche en métaux. Donc on risque d'avoir des problèmes si on ne le protège pas dès maintenant.
Les Garimperos, ce sont les orpailleurs clandestins.
Oui, parce qu'on le voit déjà. Dès que les Garimperos sont venus, il y a destruction de massive de notre forêt. Et on voit de plus en plus. Déjà, il y a une disparition de cochons bois sur notre territoire parce qu'il y a des chasseurs spécialisés sur le site d'orpaillage qui tuent les cochons bois ou d'autres animaux. Quoi.
Les cochons bois, ce sont des animaux...
Très fragiles. Fragile, si on le menace, si on détruit leur territoire, ils risquent de disparaître.
Et vous nourrissez de ces cochons de bois ?
Nous, on nourrit des cochons de bois, des paquerettes, tout ce que la nature nous donne, tous les animaux qu'on trouve dans la forêt.
Le parc amazonien est devenu la nouvelle pomme de discorde entre la métropole et certains Guyanais qui réclament une plus grande autonomie. Depuis 2013, des associations et des partis politiques, regroupés au sein d'un collectif, dénoncent la charte du parc qui, selon eux, freine le développement économique de la région. Ses opposants accusent l'État français de monopoliser la gestion du territoire guyanais et de ses richesses.
Gérard Clairvaux, vous êtes le porte-parole de l'association guyanaise Chimacan. Vous faites également partie d'un collectif d'associations très critiques envers la gestion du parc amazonien. Qu'est-ce que vous craignez ?
On craint que justement ces ressources soient étudiées de fond en comble sans qu'on ait des retombées. Et donc on risque justement de perdre toute la valeur ajoutée qui pourrait être liée à l'exploitation de cette biodiversité. Et on s'aperçoit qu'effectivement qu'il y a des centres de recherche qui sont prévus sur la santé tropicale, mais qu'il n'y aura pas d'application pharmaceutique réalisée en Guyane. On constate qu'il n'y a pas de société d'accélération de transfert de la technologie qui permettrait justement d'avoir des industries sur place. Et en même temps, la région qui avait demandé l'habilitation à gérer cette biodiversité a eu une fin de non-recevoir et ça a été remplacé par la loi cadre sur la biodiversité qui prendra effet en 2016.
Cette richesse de la biodiversité n'a aucune retombée positive selon vous pour les Guyanais ?
Exactement, le marché de la biodiversité lié à la pharmaceutique, c'est 320 milliards de dollars dans le monde. Je ne parle pas de la cosmétique, je ne parle pas de l'industrie des matériaux. La biodiversité, ce serait vraiment une aubaine, à condition qu'on la transforme sur place. Et toutes les richesses qui sortent de la Guyane doivent être transformées sur place. C'est tout ce que l'on demande.
Vous craignez que tout ce qu'on découvre ici, notamment dans la forêt amazonienne, finalement, vous ne puissiez jamais en profiter ? Que ça reparte en métropole.
Ben oui, comme d'habitude, hein. C'est ce qui s'est produit à propos de toutes les ressources. Et donc la biodiversité ne serait pas la première ressource qui serait pillée en fait. Et donc en plus, on peut déclarer simplement une plante pour pouvoir la prendre et l'étudier à partir du moment où il n'y a pas d'intérêt commercial direct. Donc on se demande qu'est-ce que ça veut dire. D'autant plus que ces retombées-là, elles sont gérées par une agence où les Guyanais n'ont aucun moyen de contrôle. Donc on n'a pas aujourd'hui de dispositifs comme les sociétés d'accélération de transfert de technologie, comme en France hexagonale, permettant de passer réellement, concrètement, d'une découverte de molécules à l'exploitation sur place de ces molécules, alors que 80% de la biodiversité se situe dans les territoires dits d'outre-mer.
Et que vous pourriez plus profiter de ces découvertes destinées à la pharmacologie.
Voilà, à la pharmacologie, aux matériaux innovants, à la cosmétique, à l'image du Brésil qui est en pointe par rapport à tout ça. C'est à l'image de ce qui se passe, qui va se passer pour le pétrole. On aura 2 euros sur 100 euros de valeur générée sur le pétrole. Donc la biodiversité rentre dans le même cadre. Et on ne va pas récupérer beaucoup de valeur. Et pendant ce temps, les indices de développement humain se dégradent et notre population souffre.
Vous avez l'impression aujourd'hui que sous couvert de protection de la biodiversité et de l'environnement, l'État français freine le développement de la Guyane ?
Oui, c'est une exclusion de la participation des Guyanais à la maîtrise de leur territoire. On ne peut pas construire de route à cause du parc. C'est marqué dans le plan global de transport et de déplacement. Donc aucune infrastructure jusqu'à 2025. Qui ne sera construit vers l'intérieur, là où il y a des richesses en termes de biodiversité, des richesses minières. En termes d'énergie, on nous propose la biomasse, qui est l'énergie la plus chère du monde. Tout montre que tout est fait, alors on ne sait pas si c'est volontairement ou pas, pour qu'il n'y ait pas de développement dans ce pays.
Je m'appelle Marie Fleury et je suis ethnobotaniste donc au Muséum National d'Histoire Naturelle, dont je suis la représentante en Guyane.
La biodiversité ici, elle est incroyablement riche. C'est important de la valoriser. Vous trouvez qu'on ne la valorise peut-être pas assez en Guyane ?
Il est clair qu'on la valorise beaucoup moins en Guyane que dans les pays voisins. Mais il me semble que ce serait important de mieux la valoriser pour justement avoir plus d'arguments pour mieux la protéger. La forêt, elle est riche de plus de 5500 espèces végétales supérieures. On pourrait quand même davantage en tirer des produits qui seraient utiles d'ailleurs à la population guyanaise, que ce soit dans le domaine des cosmétiques, comme je l'ai dit, des huiles végétales, des huiles essentielles et aussi des compléments alimentaires, des médicaments, bien sûr, des phytomédicaments, ça serait l'idéal. Il y a énormément de choses à faire, mais il y a beaucoup de blocages à la fois juridiques mais aussi politiques. C'est compliqué de mettre en place ce genre de projet. Là, on est en train justement d'inscrire un certain nombre de ces plantes à la pharmacopée française pour qu'elles puissent ensuite être valorisées sur le plan économique et pourquoi pas monter des filières avec des agriculteurs de plantes médicinales qui pourraient approvisionner les pharmacies, puisqu'actuellement, seules les plantes qui sont inscrites à la pharmacopée française peuvent être vendues comme plantes médicinales en pharmacie. Donc les pharmacies des DOM commercialisent le plus souvent des plantes qui viennent de métropoles, ce qui n'est pas très logique quand on habite sous les tropiques avec une richesse et des ressources incroyables qui ne sont pas du tout exploitées. Donc plutôt que ce soit des labos extérieurs qui montent des usines de transformation, pourquoi pas aider ces populations aussi ? Eh bien pourquoi pas à la mise en culture, ou au séchage, à la transformation, comme au Pérou par exemple, il y a beaucoup de phytomédicaments qui sont fabriqués par des communautés indigènes. On devrait suivre cet exemple et aider les populations autochtones et locales à monter aussi leur propre projet de développement pour valoriser leur propre savoir et la nature guyanaise. Parce que sinon, ils n'auront que des bribes.
Moi, je m'appelle Koupi Aloïke, je suis agent du parc amazonien de Guyane.
Vous venez donc d'un village amérindien qui s'appelle Talouen, hein, qui est ici le long du fleuve Maroni. Et vous faites partie de la communauté amérindienne Wayana.
Oui, nous sommes une majorité de Wayana en fait. Moi, on fait beaucoup de sensibilisation autour de la préservation de cette nature. Par exemple, on fait des opérations déchets tout le temps et on fait des animations autour de cette thématique, etc. Parce que malheureusement, de plus en plus, il y a les commerces chinois qui amènent plein de déchets, etc. Ça, c'est qu'un exemple. Mais on travaille aussi.
On est le long du Maroni. De l'autre côté, c'est le Suriname. Et il y a une ville, hein, quasiment un gros village, en tout cas, sur pilotis avec plein de cabanes, des supermarchés chinois. Ça a un impact sur l'environnement?
Ça a un impact sur l'environnement parce que leurs déchets, en fait, leurs poubelles, etc., ils les balancent directement dans le fleuve. On s'en est plaint plusieurs fois. Ils ne sont pas du tout respectueux de l'environnement. Ils jettent leurs déchets comme ça. Donc nous, on n'est pas très d'accord. Mais le problème, c'est qu'on vit dans un fleuve frontalier avec le Suriname. Donc la base arrière vraiment de l'orpaillage clandestin, c'est les Chinois qui sont en face et puis qui traversent tous les jours. Le fleuve et puis enfin les clandestins brésiliens aussi qui naviguent. En 5 ans seulement, la population a doublé. Ils prélèvent directement dans la faune et la flore. Ça a des conséquences sur la raréfaction de la ressource en faune, flore, gibier, etc. On a besoin de la forêt en fait tout le temps. C'est la seule ressource qu'on a et qu'on risque de plus avoir. Nous avons une façon simple de décrire la forêt, quoi. Pour nous, les Wayanais, on la considère comme notre maman, quoi, voilà.
Guyane, Diamant sous canopée, c'était un reportage de Yann Gallic. Prise de son, Benjamin Chauvin. Mixage, Julien Douminc. Interception est une émission réalisée par Anne Leroux avec le concours de Christine Kern et Stéphane Combe. Je vous souhaite un excellent dimanche.